Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté au Canada, de la violence envers les travailleuses du sexe, des mariages religieux au Québec. Et en rafale, j'ai trois bonnes nouvelles du jour à vous proposer. Premièrement, la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Ensuite, le marché résidentiel canadien qui fracasse tous les records en mars. Et la programmation des investissements pour la région de l'Outaouais. Maintenant, débutons avec l'aide médicale à mourir. La plateforme de Radio-Canada nous apprenait que le gouvernement Trudeau permettra un vote libre sur l'aide médicale à mourir, sauf pour les membres du Conseil des ministres. Et ça, c'est pour des raisons de solidarité ministérielle. Écoutez, mesdames et messieurs, il me semble qu'on soit ministre ou non, on doit pouvoir voter en fonction de notre conscience. Évidemment que le parti a un programme, mais quand on touche des enjeux sociaux, lorsqu'on touche des enjeux qui sont moraux, lorsqu'on touche des enjeux qui concernent notre conscience, eh bien, je crois qu'un représentant de la population doit avoir le loisir de dire « Je ne peux pas suivre mon parti sur ce projet de loi-là ou sur cette loi-là parce que je ne suis pas à l'aise dans ma conscience. » Il me semble que c'est ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain, notre conscience. Mais malheureusement, le gouvernement Trudeau impose la ligne de parti aux ministres. Vous allez me dire, oui, mais il donne par exemple aux députés qui ne sont pas ministres de pouvoir voter selon leur conscience. Mais savez-vous, c'est quoi ça lance comme signal? Ça lance un signal très clair. Ça veut dire, si toi, tu es un député puis tu aspires à devenir ministre, tu es mieux de voter dans la ligne du parti parce que tu ne pourras pas être ministre. C'est ça que ça lance comme signal, mesdames et messieurs. C'est très clair. Mais chez les conservateurs, ce qu'on nous dit, j'ai appelé au bureau et on m'a dit que ça allait être un vote de conscience qui va être exercé au sein du caucus conservateur. Au niveau du NPD, eh bien, j'ai appelé au bureau de M. Mulcair. La réceptionniste n'était pas au courant de la position du parti à cet effet. Alors, j'ai tenté de les rejoindre à leur bureau d'Ottawa, sans réponse. C'était le répondeur. Mais ce que j'ai découvert sur la plateforme du Huffington Post, la plateforme francophone, ce qu'on nous dit, c'est que le NPD, dans un article qui a été publié le 18 février dernier, que le NPD allait exercer leur droit de vote libre. Alors, si ça tient toujours le coup, le NPD et les conservateurs vont exercer un vote libre, tandis que chez les libéraux, eh bien, seuls les députés non-ministres vont pouvoir exercer un droit de vote libre. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? En quoi consiste ce projet de loi? Parce qu'on le sait, au Québec, depuis décembre, on a une loi qui encadre l'aide médicale à mourir en fin de vie. Eh bien, à Ottawa, eh bien, on a déposé un premier jalon, si on peut dire ainsi. Et donc, ce qu'Hélène Buzetti nous dit dans le journal Le Devoir, c'est que les balises prévues par le projet de loi demeurent trop importantes aux yeux de certains. Ainsi, pourrait-on résumer le projet de loi d'Ottawa encadrant l'aide médicale à mourir? Le gouvernement fédéral a choisi l'approche la plus restrictive et la plus consensuelle qui soit, en excluant les malades chroniques et repoussant à plus tard les déchirants débats sur le consentement préalable et l'accès des mineurs et des personnes atteintes de troubles mentaux à cette aide. Donc, en résumé, ceux qui n'ont pas droit d'avoir recours à cette aide médicale à mourir en fin de vie, eh bien, ce sont les malades chroniques, les mineurs et les personnes atteintes de troubles mentaux. Mais ce qui arrive, c'est que le Figaro nous révèle une chose très importante. C'est que le Canada veut légaliser le suicide assisté. Ce n'est pas seulement l'euthanasie qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Donc, on veut enjoliver, améliorer, atténuer la teneur de ce qu'on est en train de donner la mort à quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des expressions, disons, plus souples, plus soyeuses. Mais outre le fait qu'on utilise une appellation soyeuse, il ne faut pas oublier que même si les médias parlent énormément de l'aide médicale à mourir, ça l'inclut dans ce projet de loi-là canadien, le suicide assisté. Voici ce que nous dit le Figaro. Le gouvernement de Justin Trudeau a dévoilé jeudi un projet de loi visant à légaliser le suicide assisté, une disposition dont seraient exclus les mineurs et les déficients mentaux. Le suicide assisté serait également réservé aux citoyens canadiens et aux résidents afin d'éviter le développement d'un tourisme du suicide. Le Parlement doit s'exprimer d'ici le 6 juin sur le projet. Le projet prévoit que le patient affecté par des douleurs physiques ou psychologiques intolérables puisse faire une demande écrite d'assistante au suicide ou qu'une personne mandatée le fasse s'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Suivrait alors une période de réflexion d'une quinzaine de jours dans la plupart des cas et le patient pourra revenir sur sa décision à tout moment. Écoutez, ça, mesdames et messieurs, moi, ça me touche profondément. Savez-vous pourquoi? Parce que ma femme, elle, ma première épouse, elle s'est enlevée la vie. Et imaginez, parce que, savez-vous pourquoi elle s'est enlevée la vie? Parce qu'elle vivait des douleurs psychologiques et physiques intolérables. Et ça voudrait dire qu'elle aurait pu aller voir un médecin en disant « Là, je ne suis plus capable, ça fait 5 mois que je souffre. Là, je veux qu'on me donne quelque chose pour m'enlever la vie. » Et elle l'aurait fait. Et elle aurait eu le support, le soutien d'une équipe médicale si cette loi avait passé en avril 2013. Moi, je peux vous dire une chose, là. Ça me renverse. Ça me renverse, mesdames et messieurs. C'est une chose de vouloir donner la mort à des gens qui sont en fin de vie. Quoique, j'approuve pas ça. Dans ma conscience, si j'étais un député, je voterais contre cette loi. Mais ça m'atteint encore plus lorsqu'on ouvre la porte à un suicide assisté. Et c'est pas pour rien que le Journal de Québec va titrer un article de la manière suivante. Un projet de loi qui inquiète. Qu'est-ce que nous dit le Journal de Québec? Le texte sur l'aide médicale à mourir ouvre la porte au suicide assisté et à l'euthanasie volontaire. L'ancien sous-ministre de l'Industrie, Ghislain Leblond, qui est atteint d'une maladie dégénérative, a toujours milité en faveur de l'aide médicale à mourir. Toutefois, il considère que la loi fédérale va trop loin en permettant le suicide assisté et l'euthanasie volontaire, comme l'a précisé le gouvernement. Ce que nous dit également cet article-là, c'est que le code criminel sera modifié pour exempter les professionnels de la santé, comme les médecins et les infirmiers, d'accusations d'aide au suicide ou homicide. Il y a deux choses là-dedans dans cet article. Premièrement, il y a un sous-ministre militant qui était en faveur de l'aide médicale à mourir, puis qui dit « Oh, un instant, ce projet-là va trop loin, là. Ça ouvre trop de portes. » La deuxième chose, c'est qu'il va tellement loin, ce projet de loi-là, qu'il faut modifier le code criminel parce qu'on pourrait accuser les médecins ou les infirmiers d'aide au suicide ou d'homicide. Voyez-vous, on touche non seulement à la santé, mais là, on est en train de toucher au code criminel. Et même le ministre Barrette va le souligner. Il va souligner qu'on va plus loin que la loi qui a été votée, qui a été débattue, qui a été votée à Québec. Il y a un autre élément qui est préoccupant, c'est qu'on va pouvoir donner la mort à un patient à quel moment? 2 jours avant qu'il meure? 1 semaine avant qu'il meure? Non, la loi, elle exprime un flou total. quand elle est raisonnablement prévisible. Et quand le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, qui est fier de sa loi sur l'aide médicale à mourir au Québec, dit que, oh, un instant, là, il y a un danger ici. C'est qu'il y a un véritable danger, là. Je ne suis pas en train de crier au loup, mesdames et messieurs, là. Et là, la question qu'il pose, parce que c'est soulevé justement dans un article sur la plateforme de Radio-Canada, il va soulever ceci. Dans certains cas, comme ceux de gens souffrant de la sclérose en plaques, par exemple, la loi québécoise est claire. Il n'y a pas d'accès à l'aide médicale à mourir. Or, dans le projet de loi fédéral à cet égard, il y a encore un flou, dit Gaëtan Barrette. Le ministre de la Santé du Québec ajoute que ce flou sera potentiellement difficile à gérer dans certaines situations. Réalisez-vous? C'est quand même spécial, mesdames et messieurs. Et c'est pas pour rien. Sur la plateforme de Radio-Canada, mais dans un autre article qui est intitulé « Aide médicale à mourir, les conservateurs défendent la conscience des médecins », eh bien, ce que Radio-Canada nous rapporte, c'est que le député conservateur Gérald Deltel se dit très préoccupé par la protection de la conscience des médecins pour laquelle rien de précis n'est prévu dans le projet de loi. Et ça, c'est préoccupant également. Parce qu'un médecin, par mesure de conscience, qui ne veut pas donner la mort à un patient qui lui demande, eh bien, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Est-ce qu'il va être obligé de donner la mort? Est-ce qu'il va être obligé, comme au Québec, de le référer à un collègue ou à l'institution, du moins? Et c'est pas pour rien que Radio-Canada va citer une déclaration de Gérard Deltel qui est très percutante. Qu'est-ce qu'il a dit, Gérard Deltel? Il a dit que pour plusieurs députés, ce sera fort probablement le vote le plus important de leur vie parlementaire. Pourquoi ça va être un vote important? Eh bien, c'est clair, mesdames et messieurs. Parce que cette loi ouvre la porte au monde médical de donner la mort. Et ouvre la porte également à des gens de se donner la mort. Et donc, c'est pas peu dire, mesdames et messieurs. En termes de conscience, ça demande énormément de réflexion et ça demande énormément de prière également. Parce qu'oubliez pas, cette émission s'adresse aux citoyens de bonne foi et également aux gens de foi. Il se passe bien des choses sur notre planète, hein, parce que ici au Canada, on parle de suicide assisté, on parle de mort en fin de vie, évidemment. Tout le monde finit par mourir en fin de vie, mais là, lorsque c'est le temps de donner la mort en fin de vie, là, c'est autre chose. Mais en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, en France, on a mis au point une loi qui punit ceux qui vont chercher des services sexuels auprès de prostituées. Et donc, on ne punit pas la prostituée, celle qui offre les services, mais plutôt le consommateur du service. Pourquoi? Parce que justement, les femmes sont souvent victimes de réseaux, sont souvent victimes du crime organisé. Et donc, les pénaliser, c'est à quelque part, selon la loi, selon la pensée française, c'est injuste. Mais ce n'est pas seulement la pensée française parce que on a voulu développer un projet de loi similaire ici au Canada. Mais je dis la pensée française parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment et c'est ce contexte-là que je suis en train de commenter. Et donc, dans un article qui s'intitule « Après la loi, une campagne choc pour dénoncer la violence de la prostitution », eh bien, ce que le Figaro nous dit, c'est qu'un film et une affiche mise sur un slogan « Dans la vie d'une prostituée, seuls ses bourreaux prennent du plaisir ». Et donc, ce film et cette affiche visent à sensibiliser les Français. C'est un message qui s'inscrit dans la lignée de la nouvelle loi qui pénalise le client. Et donc, ce qu'on veut faire, justement, c'est qu'on veut démontrer que, au bout de la ligne, la prostituée, c'est pas elle qui a du plaisir. Et donc, c'est un acte de violence, c'est un acte de consommation, et c'est une campagne qui vise justement à sensibiliser les gens que l'industrie du sexe n'avantage pas vraiment celle qui s'y livre, comme un travail du moins. Et donc, à ce moment-là, la France s'en va dans la même direction que la Suède, la Norvège et l'Islande. Et évidemment, ce projet de loi-là ne fait pas l'unanimité. Mais ce que nous dit le mouvement du nid, qui est impliqué ou qui est favorable à toute cette démarche-là, ils vont dire qu'avec cette campagne, nous avons voulu de la même manière montrer l'envers du décor en questionnant cette notion de plaisir mise en avant par l'industrie du sexe. Alors, je trouve ça intéressant que, justement, cet envers du décor soit maintenant mis de l'avant. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est l'opposition qui presse la ministre Vallée de changer de position en appel concernant les mariages religieux. Eh bien, c'est un débat qui a eu lieu en chambre. Et pourquoi? Parce que ça touche la question des mariages non déclarés. Parce que la ministre Vallée a parlé à un moment donné d'unions spirituelles qui ne sont pas des mariages reconnus. Par exemple, il y a une cérémonie qui se fait dans un bâtiment. Et là, il y a un représentant de la communauté religieuse qui marie devant Dieu ces deux êtres humains-là, un homme et une femme dans la plupart des cas. Mais qu'il n'y a pas de papier ou d'enregistrement auprès de l'État civil. Donc, ce n'est pas un mariage qui est reconnu civilement au terme de la loi, mais qui est reconnu, selon eux, divinement. Et donc, à ce moment-là, la ministre n'avait pas l'intention d'aller plus loin, mais l'opposition la presse à mettre de la clarté là-dessus. Elle dit, elle, qu'un mariage reconnu, c'est un mariage, mais il y a une ambiguïté, elle souffle le chaud et le froid, et donc l'opposition la presse à se prononcer d'une manière claire pour s'assurer que, justement, à chaque fois qu'il y aura une cérémonie d'union, ça soit reconnu légalement. Alors, le débat se poursuit. C'est à suivre, mesdames et messieurs. Sortez votre popcorn, s'il vous plaît. Alors, je termine l'émission avec, justement, nos bonnes nouvelles du jour. Eh bien, n'oubliez pas que la semaine prochaine, du 17 au 24 avril 2016, c'est la semaine nationale du don d'organes et des tissus. Donc, pour dire oui, c'est important de signer votre carte d'assurance maladie, d'adhérer comme quoi vous êtes consentant à donner vos organes lorsque vous serez mort à ce moment-là, lorsque vous serez décédé, pour que ça puisse sauver des vies. Saviez-vous, selon ce qu'on y dit justement, c'est qu'un seul donneur peut sauver jusqu'à 8 vies et en aider 20 autres par le don de tissu. Alors ça, c'est vraiment important. Une autre nouvelle fracassante, mesdames et messieurs. Le marché résidentiel canadien fracasse tous les records en mars. Eh bien, voici les faits saillants. Les ventes résidentielles ont augmenté de 1,5% au pays de février à mars. Les ventes réelles ont augmenté de 12,2% par rapport aux résultats enregistrés en mars 2015. Le nombre de maisons nouvellement inscrites a chuté de 1,4% de février à mars. Mais l'indice des prix de propriété a augmenté de 9,1% d'une année à l'autre en mars. Le prix de vente moyen au Canada a grimpé de 15,7% d'une année à l'autre en mars, si on exclut le Grand Vancouver et le Grand Toronto. Il a progressé de 10,4% d'une année à l'autre. Donc, c'est intéressant parce qu'on sait très bien qu'il fut un temps où est-ce que le marché de la vente résidentiel stagnait. Et la dernière bonne nouvelle, eh bien, c'est une annonce de la programmation des investissements routiers de 2016 à 2018 pour la région de l'Outaouais. Eh bien, ça, c'est intéressant parce que le ministère du Transport investit de l'argent dans nos routes. Ça, c'est important. Conservation des chaussées, 63 millions. Conservation des structures pour le réseau du ministère du Transport, 24 millions. Réseau municipal, presque 21 millions. On parle de 20,8. Amélioration du réseau routier, 14 millions. Développement du réseau routier, 3 millions. Total, tout près de 126 millions de dollars. Et donc, il va y avoir 75 chantiers d'impliqués. Nombre d'emplois créés ou maintenus, 801. Nombre de structures qui feront l'objet d'interventions au niveau du ministère du Transport, 23, puis sur le réseau municipal, 17. Ce sont de bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. Mais sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, eh bien, je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce Tour d'horizon. Le Tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!